Il est l'heure de retrouver à nouveau Lunchtime. Bienvenue dans ce podcast de Leading Swiss Agencies. Dans ce rendez-vous, deux spécialistes de la branche s'invitent régulièrement pour discuter de ce qui fait bouger le monde de la communication en Suisse et vous donner un aperçu de leur travail quotidien.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Leading Swiss Agency. Je suis Laetitia Feller, co-CEO de l'agence MediaMix et je suis accompagnée de Vera Katz de l'agence Dentsu.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous sommes au sein de l'agence MediaMix, une agence média indépendante basée à Belmont-sur-Lausanne, donc tout juste à côté de Lausanne, où nous accompagnons depuis plus de 40 ans maintenant des marques suisses et internationales dans la conception et l'orchestration de campagnes médias, aussi bien offline que digitales, avec un accent sur la précision, l'efficacité et puis bien sûr l'innovation.
Pour ma part, Vera Katz, Managing Director de l'agence Dentsu en Suisse. Alors Dentsu est un groupe international basé dans un peu plus de 140 marchés, avec aussi environ 70 000 employés. Mais je vous rassure, moi je m'occupe uniquement de la partie suisse et ici nous avons environ une soixantaine d'employés et puis nous sommes majoritairement basés à Zurich et avons également une petite équipe d'environ 6 personnes à Lausanne. Donc voilà. Et nous occupons de clients aussi bien internationaux que locaux, mais uniquement pour le marché suisse majoritairement. Voilà.
Ok, c'est impressionnant parce que nous de notre côté on est une agence indépendante, donc on a été fondée il y a 43 ans, en 82, et on est une équipe de 17 personnes, voilà. On gère des campagnes pour des clients aussi bien issus de la banque en ligne que de la banque privée, on a de l'agroalimentaire, on est également présent pour des business schools, du tourisme, du sport ou bien également de l'industrie créative, donc on va cibler des audiences aussi bien B2B que B2C. Avec des objectifs allant de la notoriété à la performance, bien sûr. Et en fait, ce qui nous distingue des grandes agences, c'est le pilotage centralisé. Donc, toutes nos équipes sont basées à Belmont-sur-Lausanne. Donc, tout est géré depuis ici. On orchestre des campagnes donc, dans le monde entier. L'année dernière, on était présent dans 90 pays. On est vraiment un hub international à taille humaine.
C'est impressionnant. Alors effectivement, nous, on a aussi le même type de typologie de clients, mais par contre, vraiment, je dirais, pratiquement 100% B2C. On fait très, très peu de B2B à ce jour. De grands clients internationaux, aussi bien dans l'automobile, la cosmétique, les produits de FMCG, des choses comme ça. Et puis, par contre, comme je le disais, majoritairement avec des communications en Suisse, aussi bien offline que online sur les différents canaux qu'on peut trouver en Suisse. Mais c'est vrai que 90 marchés, ça paraît vraiment énorme. Comment vous gérez ça au quotidien? Comment vous travaillez? Comment vous pouvez conseiller un client sur 90 marchés?
Alors, on ne fait pas les 90 marchés en même temps, heureusement. On se doit d'être constamment flexible. Après, je dirais que la clé, c'est vraiment la connaissance de cet historique dont on a hérité. Ces 43 ans qu'on a également derrière nous d'archives, de benchmarks, de connaître également les éditeurs de manière profonde aussi, c'est-à-dire qu'on les suit depuis le début, on a vu leurs évolutions, ils viennent nous voir très régulièrement, donc on a également ces chiffres en tête et c'est pour ça aussi qu'on arrive en fait à garder en tête des coûts, des rates, des performances, des manières de pénétrer certains marchés, des leviers à actionner aussi au niveau des médias. Donc c'est vrai que tout ça, c'est notre, pas intelligence artificielle, mais notre intelligence réelle qui nous aide. C'est vraiment les équipes quoi, qui ont vraiment toute cette connaissance qu'on a en interne. Et ça, vraiment, on met un point d'honneur à faire des formations hebdomadaires aussi pour conserver cette connaissance.
Et donc, c'est majoritairement des investissements sur le online, étant donné que ça va sur d'autres marchés, c'est plus facile de le faire depuis ici à Belmont ou pas forcément?
Non, pas forcément. C'est pas plus simple. C'est juste que vraiment le fait d'avoir cette force ici centralisée nous permet d'être hyper flexible, de pouvoir créer également des groupes de travail, des groupes d'experts. Donc, on a vraiment des experts à chaque fois pour chaque métier. Et en fonction des thématiques et des problématiques, ben, on crée des groupes différents à chaque fois. Et puis, on va mettre à profit ces expertises-là.
Donc, en fait, vous avez une équipe qui se crée à chaque fois pour un client en fonction des besoins.
Oui, très bien. Oui.
Alors, nous, pour le coup, c'est un petit peu différent. On a des équipes de consultants qui sont en contact direct avec les clients et puis qui vont faire appel, effectivement, aux différents spécialistes en fonction des besoins, que ce soit pour l'offline, pour l'online. Mais effectivement, on a des équipes qui sont régulièrement sur les mêmes clients et on a moins cette adaptation de l'équipe en fonction des besoins du client. C'est plutôt les spécialistes auxquels on va faire appel.
D'accord.
Qui vont ensuite être intégrés en fonction des besoins de chaque client.
Et alors vous, la partie achat en Suisse, à quoi ça correspond en fait? Comment vous travaillez? Comment est ta répartition entre l'offline et l'online, si tu devais décrire un petit peu ton activité journalière?
Alors, il y a évidemment différentes structures en fonction des clients, mais je dirais majoritairement, ce sont des clients internationaux que nous gérons en local. Donc souvent, on a la chance de pouvoir bénéficier de guidelines, de golden rules, de tous ces grands termes qui nous proviennent de l'international et qu'on va quelque part adapter, traduire pour le marché suisse. Donc, on va prendre ça, on va... Encore la plupart du temps, faire des stratégies annuelles pour nos clients, avoir une visibilité et pouvoir s'appuyer vraiment sur toute une stratégie globale annuelle. Et puis ensuite, pour être honnête, en Suisse, on est encore majoritairement quand même beaucoup sur le offline. La Suisse est un pays de presse à la base. La télé est encore très, très forte. Et l'out of home, OOH, se développe encore et toujours beaucoup avec le digital out of home aussi. Bien évidemment, le digital est essentiel. Je pense qu'il n'y a pas une campagne qui se fasse sans un soutien ou un apport digital. Mais aujourd'hui, ça reste souvent encore les médias de masse comme médias principaux et vraiment avec le support des différents canaux digitaux, je dirais encore pour les clients en Suisse. Alors que pour vous, j'imagine que c'est peut-être l'inverse.
Oui, bah écoute, nous aussi, c'est, ce qui est intéressant, c'est la gymnastique qu'on a multifuseau. C'est plus un mode follow the sun, donc le matin on va commencer avec l'Asie, on va peut-être terminer avec les États-Unis ou l'Amérique. Donc acheter des médias à l'international n'a jamais été aussi simple de nos jours et jamais aussi compliqué. Mm-hmm. Donc en fait il faut qu'on ait une efficacité, je dirais globale, mais une finesse locale par marché. C'est ça aussi qui est des fois assez difficile parce que il faut, et justement je dirais que heureusement grâce à l'héritage qu'on a de ces 43 ans, d'avoir un héritage solide et une transmission exigeante en fait qui se fait des savoirs, parce que lorsqu'on définit une stratégie, pour nous, ben, chaque campagne, chaque franc investi doit fournir un impact qui est aussi mesurable de notre côté, de plus en plus. Et en fait, pour y parvenir, on s'appuie sur nos bases de données consolidées par pays, par plateforme. On a également l'historique des achats, donc les négociations qu'on a pu faire par le passé. Donc, on se base aussi sur tout ça. L'évolution aussi des performances entre le offline et le online. Donc, le résultat, c'est qu'on a vraiment des estimations, quand on part sur un plan média, des estimations au plus juste, en fait, des performances qu'on va pouvoir réussir à atteindre. Et déjà, ça, c'est vraiment un bon démarrage pour nous au niveau de la relation qu'on a avec le client.
Bien sûr. Et pour le coup, quels sont les marchés principaux aujourd'hui? J'imagine que c'est très différent d'un client à l'autre, mais
oui.
Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quels sont les marchés prioritaires généralement pour un client international?
Alors pour l'instant, je dirais qu'on couvre en grande majorité l'Europe, les États-Unis, l'Asie bien sûr, et puis le Middle East principalement. En fonction des années, ça va encore évoluer, ça aussi. Et puis en fonction des fois des thématiques, des lancements de produits, des changements stratégiques, comme c'est le cas maintenant aux États-Unis avec l'augmentation des taxes douanières, certains annonceurs essayent de chercher des solutions alternatives. Donc, on est aussi amené, nous, à changer ces stratégies-là.
Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui comme défi dans l'agence au quotidien ? Est-ce que c'est avec les clients ? Est-ce que c'est avec la technologie, les budgets, le contexte économique ? Comment tu ressens aujourd'hui les challenges que vous affrontez ?
Alors, je dirais que je pense que toi, tu as à peu près le même ressenti, peut-être différemment aussi sur la Suisse, mais les 10 dernières années, c'est sûr, il y a eu énormément d'évolutions au niveau des médias, du digital, des réseaux sociaux. Donc, ça n'a jamais été aussi
fragmenté,
rapide. Mais je trouve que ces dernières années, c'est vraiment une évolution qui cesse, qui est vraiment extrêmement rapide. Oui. Et ce qui est compliqué pour nous, c'est de suivre cette évolution sur l'ensemble des marchés.
Encore une fois,
je reviens sur les États-Unis, mais il y avait également cette problématique avec TikTok, où on ne savait pas si la plateforme allait peut-être disparaître ou non. On avait également d'autres spécificités avec l'Allemagne, où en fait il y a eu une loi l'année dernière, en 2024, qui donne en fait... ou avant le propriétaire en fait de biens intégrait en fait les coûts de télévision dans les charges locatives, et maintenant cette loi qui a été abolie donne le choix au locataire de prendre l'abonnement câblé ou non. Mmh. Et puis c'est vrai que ça a complètement défragmenté le marché. C'est vrai que la part maintenant de télé a complètement diminué ou c'est complètement évolué. Donc là aussi il faut trouver des solutions très rapides à tout ça. Donc c'est, pour moi, c'est un des grands défis.
C'est de suivre
l'évolution par marché, oui.
Alors je dirais oui, effectivement, chez nous, c'est la même chose. Le digital évolue tous les jours. Il y a de nouvelles problématiques de technologiques, etc., qu'on doit également suivre. Et puis c'est vrai que je dirais que tout ce contexte aussi... politique, économique, a également une influence parce qu'on sent clairement que les clients ont moins aussi cette visibilité à long terme. Tout doit être décidé à très très court terme. Et en Suisse, comme on parlait tout à l'heure, le fait qu'on soit surtout aussi sur des médias offline, on a cette flexibilité est beaucoup plus réduite, bien évidemment, donc nous permet d'être moins agile que ce qu'on voudrait bien pour nos clients. Mais évidemment, on peut toujours pallier avec justement des compléments digitaux qui nous permettent un peu plus de flexibilité. Mais c'est vrai que je dirais, donc, pour moi, c'est toute l'évolution et également cette visibilité à court terme maintenant qui rend les choses plus difficilement planifiables. On doit être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide et puis être sans cesse en évolution. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est ce qui rend aussi le métier intéressant quelque part, hein, soyons clairs. Mais...
Oui. Non, c'est très bien.
Mais
c'est vrai que c'est un challenge de tous les jours qui évolue sans cesse. Donc, c'est très positif. Et puis, d'un autre côté, il faut constamment suivre.
C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi depuis longtemps. C'est parce que je pense que moi, j'en apprends encore tous les jours. Je ne peux pas dire que je m'ennuie. Donc, c'est ce qui fait aussi la force du métier. Et c'est vrai que... Ben, on se demande aussi comment les choses vont évoluer dans le futur, comment on va continuer à pouvoir suivre ces changements. Et quelque part, des fois, on voit aussi un petit retour en arrière. Je ne sais pas si vous le sentez aussi. On parlait de la mort de la télé, de ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que les investissements en télé, en tout cas chez nous, ne cessent de croître, oui. Sincèrement. Donc, on voit aussi que c'est des cycles. Mmh. Et que les choses ne sont pas terminées comme on pourrait le croire et qu'elles reviennent. Et puis finalement, c'est le mix de tous ces touch points, de tous ces contacts, de tous ces canaux qui nous permettent d'avoir des campagnes effectives et puis visibles et performantes.
Oui. Alors, c'est drôle que tu le soulignes parce que nous, on voit apparaître la même tendance. Donc, on a de plus en plus de demandes des annonceurs qui viennent vers nous pour notre expertise dans le offline. Donc, il y a ce retour en arrière aussi qui nous fait du bien, qui nous flatte aussi, parce que c'est vrai que, alors c'est sûr, on a développé notre trading desk en interne, qu'on a des spécialistes aussi pour chaque plateforme, mais on n'oublie pas nos racines, notre ADN, et c'est vrai que cette compétence, on l'a. Pour nous, le offline n'est absolument pas mort. Il est même essentiel pour certains marchés. Tu mentionnes la Suisse, mais moi, je mentionne également, par exemple, le Japon, qui est très axé sur le print, le Royaume-Uni, où c'est la télé a vraiment une part énorme là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment des marchés et des plateformes clés. Après, c'est vrai que nous, la problématique qu'on a aussi, c'est que même un million de budget sur deux pays, c'est différent à répartir que un million sur 10 marchés.
Ouais, bien
sûr. Et c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on s'adapte.
Absolument. Après, moi, j'ai aussi le sentiment que les clients voulaient absolument avoir un retour sur investissement. Chaque franc investi, comme tu l'as dit très justement, devait avoir un retour. Donc, on parlait beaucoup de performance, de ROI, qu'on peut surtout atteindre en digital, c'est sûr. Mais je me rends compte aussi, enfin, c'est mon sentiment, que les clients ont tellement mis l'accent là-dessus qu'ils se sont aussi rendus compte les 3, 4, 5 dernières années que finalement leur KPIs de brand, de visibilité, d'awareness a diminué et puis doivent aussi peut-être revenir quelque part aux fondamentaux d'avoir, de nouveau, ça dépend aussi de la maturité du produit, de la marque, mais une marque qui n'est pas connue ne peut pas convertir en termes de performance à un moment donné. Enfin, on aura atteint le potentiel assez rapidement finalement.
Oui. Et ça, comment vous le travaillez? Par exemple, vous travaillez pour une grande marque très connue à l'international, mais qui n'a pas encore vraiment une phase ancrée sur la Suisse. De quelle manière ou comment tu vas préconiser une approche
Justement, là, c'est tout de trouver le juste milieu entre le budget que tu vas investir pour la partie vraiment de reach, d'awareness, et la partie que tu vas mettre en performance. Et c'est vrai que certains clients étaient vraiment focus performance, qui avaient peut-être 80, voire parfois 100% de leur budget en performance. Même si on leur a dit attention, ne négligez pas la partie branding, c'est important de quand même mettre en avant votre marque, etc. Et puis, on se rend compte qu'ils reviennent quand même finalement sur ce qu'on leur avait dit il y a quelques années. Donc, c'est une balance, c'est de trouver l'équilibre entre le pourcentage de budget que tu vas mettre en visibilité, en notoriété de marque versus ce que tu vas mettre en performance. Pour certaines marques, c'est très clair, elles doivent encore se faire connaître, donc on est plutôt sur du 70-30, alors que d'autres qui sont extrêmement connues déjà en Suisse et implantées, là, on peut effectivement réduire le pourcentage du budget qu'on va mettre en notoriété pour se retrouver peut-être 50, 40, 30% et mettre vraiment un focus plus important sur de la performance. Ça dépend également du produit ou de si on est sur des phases de promotion, des choses comme ça. Là aussi, ça aura une importance et forcément qu'on va adapter donc le split budgétaire et média en fonction de ça aussi.
Est-ce que ça aussi, ça peut être un défi chez toi de pouvoir aussi faire comprendre la culture locale, suisse, média?
Alors, tu touches un point extrêmement important. Oui, clairement. On doit surtout l'expliquer, je dirais, aux clients internationaux, à nos marchés au niveau international. Il y a souvent, les grands clients sont gérés par des hubs où on doit reporter, que ce soit en Allemagne, au UK ou même aux pays nordiques. Et c'est vrai que la Suisse est tellement spécifique par certaines lois, par certains media mix, comme on en parle, enfin on l'a évoqué au début, que ce soit l'offline ou le print qui est très important pour certains marchés ou pour le secteur bancaire ou autre par exemple. Et ça, c'est des choses que si tu parles peut-être au UK, ils vont pas tout de suite comprendre. On doit vraiment constamment réexpliquer les spécificités du marché suisse, des trois langues, les spécificités cantonales. Je veux dire, on ne peut pas, par exemple, on a des clients dans les boissons alcoolisées. Les règles ne sont pas les mêmes à Zurich ou à Genève.
Ah oui, bien sûr.
Et donc là encore, on doit adapter. Le planning est vraiment, c'est du cherry picking. On va vraiment aller dans chaque région faire un planning spécifique comme tu le fais dans des marchés différents. Enfin, donc c'est vraiment à la carte et ça c'est quelque chose qu'on doit répéter constamment effectivement aux clients à l'international ou également même à nos propres collègues à l'international finalement.
Oui.
Et ça me fait rebondir, et c'est également une problématique qu'on rencontre, je ne sais pas si tu l'as également, c'est justement quand on est dans des pitchs ou même quand on est dans des négociations avec des clients, c'est de vraiment défendre et expliquer les coûts de la Suisse, que ce soit au niveau média, mais également au niveau des équipes, parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer un marché comme la Suisse à des marchés latins ou... Enfin voilà, on connaît tous les prix de la Suisse. D'un FTI en Suisse ne peut pas être comparé à d'autres marchés. Et même également en termes de rémunération. De nouveau, je disais, on parle de la Suisse, mais on parle presque parfois de 3 pays différents en fonction des 3 langues si un client communique au niveau national. C'est des planifications différentes et donc ça prend plus de temps, il faut plus d'implication, il faut aller plus en profondeur et ça, on doit vraiment le répéter continuellement. Donc, c'est un point très, très important que tu relèves là.
Alors, nous, on a des défis un peu différents d'un point de vue où on a tout centralisé à Belmont-sur-Lausanne et puis on touche vraiment X pays dans le monde entier, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on soit flexible, ce qui nécessite aussi des investissements de notre part pour mettre à disposition en continu aussi des outils qui nous permet aussi d'assurer la qualité des campagnes et des plans médias qu'on va préconiser. Ça veut dire investir dans des nouveaux DSP. Mmh. Comme je t'avais déjà dit, quand on touche des marchés aux États-Unis, certains DSP sont moins spécifiques. D'autres vont chercher des audiences différentes. On utilise des DSP différents pour la télé connectée, que pour l'affichage en programmatique. Donc à chaque fois, même par exemple pour le marché allemand qui est encore différent, on utilise aussi des DSP spécifiques à la télé, mais aussi à certains inventaires aussi en digital, programmatique, display programmatique. Donc là aussi, ça nous demande et du temps de recherche, du temps de discuter avec cette technologie, de les comparer, de voir lesquelles sont les plus optimales pour satisfaire un petit peu nos attentes, de pouvoir après les utiliser, ça veut dire une formation. Et puis après, il faut que derrière, les investissements suivent, que derrière, on ait assez de campagnes pour justifier l'utilisation de tous ces DSP. C'est également l'achat d'études. Quand on s'attaque à des marchés ou des thématiques très spécifiques, l'agroalimentaire sur tel et tel marché nous demande quand même d'avoir des études de la population, des comportements sociodémographiques pour pouvoir cibler au mieux les audiences. Donc tout ça, c'est vraiment un investissement et en termes d'outils, en termes de temps aussi d'analyse, de compréhension. Et puis après, c'est d'échanger aussi avec les marchés locaux, de pouvoir également discuter avec des fois des commerciaux parce qu'eux, ils ont vraiment cette culture terrain. Donc, c'est d'aller chercher aussi de rentrer en contact avec pas seulement l'annonceur, mais leurs équipes pour pouvoir avoir un maximum d'informations pour quand on fait des campagnes de search, par exemple, on a besoin de mots-clés spécifiques. Là aussi, c'est clé d'aller fouiller aussi et d'être prescripteur de solutions et pas de seulement pouvoir livrer quelques analyses ou voilà.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est souvent minimisé. C'est vrai que les clients, ce que je peux tout à fait comprendre, ils voient le consultant qui est en face d'eux, qui discute avec eux, qui a des weekly, qui leur transmet les plans, etc. Mais il y a tout le travail en amont de recherche, de planification, de recommandation, de stratégie, d'outils qui est énorme et qui se complexifie de plus en plus, comme tu l'as très, très justement dit. Et ça, souvent, malheureusement, je trouve que c'est encore... peu perceptible et c'est vrai qu'on doit faire un grand travail, je trouve, en tant qu'agence aussi, d'expliquer aux clients tout ce qui se passe en amont, de ce qu'ils ne voient pas forcément, pour pouvoir être au plus juste, au plus efficace pour mettre en place ces campagnes finalement.
Oui.
Et ça, c'est aussi un challenge, je trouve, qu'on rencontre aujourd'hui dans les discussions et négociations avec les clients, c'est juste.
Oui. Nous, c'est beaucoup aussi une question de temps. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il faut développer cette expérience. Je pense que moi j'ai à peu près 15 ans voire plus d'expérience dans les médias et en fait ça développe une intuition humaine, je dirais, que même on va dire l'IA ne peut pas nous apporter dans le sens où avec tout ce qu'on a assimilé en termes d'études de marché, d'informations sur la maturité des médias, comment ils ont évolué, est-ce que certains ont fusionné entre eux, des benchmarks, des analyses, des rapports de tes campagnes. Donc, tu sais à peu près où se situent tes CPM ou tes taux de clic approximativement en fonction de tel et tel marché, en fonction de tel et tel campagne. Donc, toute cette accumulation d'informations, d'expériences, pour nous, c'est aussi ça la clé, en dehors des outils que l'on a. Et ça, moi, je veux vraiment souligner ce point, parce que en dehors des médias avec lesquels on travaille et en dehors des outils qu'on utilise, moi, je valorise vraiment les équipes, parce que chez nous, ils se donnent vraiment énormément de mal à se former, à suivre tout ce qui se passe. Franchement, moi, je souligne et j'ai de la chance d'avoir une équipe comme ça, parce qu'ils sont tous curieux. Ils ont une force de connaissance et je trouve que ce côté terrain, évolution de médias avec le suivi, les rencontrer également, je trouve que c'est intéressant de rencontrer encore les médias. Bon, alors c'est vrai que par le passé, on était invités chez eux. maintenant, ils nous rendent visite, donc c'est très bien d'avoir aussi cette expertise et ça, je trouve que c'est de plus en plus rare à trouver.
Tu as raison, il faut mettre en avant l'aspect humain parce qu'effectivement, les outils nous aident beaucoup. C'est évidemment important également pour les clients. Ils ont besoin d'avoir du rationnel, pourquoi on recommande telle ou telle chose. Mais toute l'expertise humaine et l'expérience et d'approfondir certains sujets, de se former, etc., c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui demande beaucoup d'implication aussi. Et ce n'est pas donné. C'est-à-dire que c'est plus facile finalement de prendre un briefing et d'aller faire une simple planification, quelque part, entre guillemets, plutôt que de prendre un briefing, de le comprendre, de l'analyser, de le challenger, d'imaginer est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose que le client n'a pas forcément vu ou auquel il n'a pas pensé. Et ça, c'est tout l'aspect humain, effectivement, qui ne peut pas être remplacé aussi facilement qu'on pourrait le croire par de l'AI, par des outils. Et je te rejoins, les équipes aujourd'hui qui travaillent dans les agences doivent être vraiment multitask, multi-channel, aussi bien avoir l'aspect stratégique, mais également des objectifs, de la planification. Et c'est vrai que je crois qu'on peut dire qu'on est des vrais couteaux suisses.
Ouais. Après aussi, pour aller dans la continuité, je trouve que ce qu'on essaye aussi de faire toujours, c'est de prendre une partie du budget qu'on a pour faire du test and learn,
oui,
et de ne pas rester sur nos acquis, de toujours proposer aux clients, même si des fois il veut la sécurité, de se dire voilà, ce type de campagne fonctionne, pourquoi le re-challenger. C'est vrai qu'il y a tellement d'évolutions, de nouvelles possibilités, que ce soit de ciblage, de format, d'aller chercher des audiences fraîches. Voilà, donc c'est de garder une partie du budget toujours pour un test and learn et puis d'évoluer aussi dans ce sens-là.
Je te rejoins, ça nous tient vraiment à cœur également. On essaye toujours d'avoir entre 10 et 20% d'un budget un petit peu pour l'innovation, pour le test and learn, et puis pour vraiment challenger le client, lui proposer de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc absolument, ça fait également partie de notre ADN, je te rejoins. Et puis peut-être pour terminer notre discussion aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de toute l'évolution des médias, surtout du digital évidemment. Comment tu vois le futur des agences médias? Comment tu penses qu'on va se développer? Est-ce que c'est plutôt dans la technique, dans la technologie, dans le modèle, dans le...
Moi, ce que je vois apparaître en tout cas, c'est qu'il y a des demandes en fait qui sont... Il y a des attentes qui sont toujours plus fortes et toujours plus claires, plus développées, plus précises. On sort des KPIs classiques, on veut vraiment des KPIs plus axés business, oui, retour sur investissement. Je pense que les marques attendent aussi qu'on soit de leur côté avec toutes les contraintes externes qui leur incombent, qu'elles soient géopolitiques, légales, économiques. Je pense que les clients, ils veulent plus simplement une agence d'exécution. Ils veulent vraiment des équipes capables d'anticiper, d'analyser et puis d'accompagner dans un environnement qui cesse d'évoluer. Donc, je pense que c'est ça. Après, oui, on peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de low carbone, on peut parler de plein de plateformes. De toute façon, ça ne va pas cesser d'évoluer. Absolument. Je pense que de toute façon, on va faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire suivre, s'adapter constamment, tester, intégrer, s'intéresser et puis être flexible.
Oui, agile, je crois que c'est le mot d'ordre, voilà, n'est-ce pas? Oui, c'est pareil chez nous. On s'accommode, on se met à jour, on se forme sur toute cette nouvelle technologie. Je pense que l'évolution aussi, c'est effectivement cette vision vraiment 360, non seulement dans le média, mais également tout l'environnement qui entoure nos clients, le marché, les points de vente. Enfin, c'est vraiment plus large. Aujourd'hui, on ne demande pas seulement d'être consultant média, mais quelque part consultant tout court. Et ne pas traiter uniquement, effectivement, la partie média, mais avoir une vue d'ensemble plus générale. D'ailleurs, nous, on le voit également aujourd'hui dans notre rémunération, on a parfois une partie variable qui tient compte des objectifs business. Donc, ça va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'on tente et on le souhaite aussi être non pas uniquement un exécutant, mais être un vrai partenaire de nos clients pour pouvoir vraiment les accompagner, quelque part prendre aussi le risque avec eux. D'avoir des campagnes et une réflexion qui performe pour pouvoir évidemment profiter à leur business mais également au nôtre. Donc je rejoins ta réflexion sur le futur. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, par exemple, Dentsu était uniquement une agence média par le passé, et par des acquisitions que nous avons faites ces dernières années, aussi développé la partie customer experience, créa et autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'on met en place des campagnes.
Oui.
On amène quelque part l'utilisateur sur le site ou en point de vente, mais c'est vrai qu'on ne voit pas la suite finalement. Et donc, c'est vrai que c'est une partie très intéressante aussi de pouvoir voir ce que fait le client, son parcours, et puis finalement le fidéliser, le voir revenir sur les différents canaux, plateformes et autres. Oui. Donc, ça va dans ton sens. Je pense qu'on n'est plus seulement une agence média aujourd'hui, on est des consultants tout terrain quelque part.
Exactement.
Et c'est aussi, une fois de plus, la partie challenging de notre travail, mais aussi hyper intéressante, qui nous permet de rester constamment en évolution, de grandir, d'apprendre, et puis qui fait que, et toi et moi sommes là depuis plus de 15 ans finalement. Donc voilà.
Merci pour cet échange.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Oui, pour moi aussi.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Lunchtime touche malheureusement à sa fin. Merci de votre attention et au plaisir de vous avoir à l'écoute pour le prochain épisode.